Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu.
Je voulais quand même parler d'une certaine hypocrisie qu'il y a quand on va au Festival de Cannes en tant que critique, parce qu'on voit tellement de films que t'es obligé, au bout d'un moment la fatigue l'emporte et tu dors. Je voulais savoir si vous aviez des expériences de vraiment de sommeil profond pendant un film, et du coup à quel moment on considère que tu peux pas vraiment parler d'un film, à quel niveau de minutes manquées d'un film tu considères que tu peux plus en parler.
Moi je sais pas exactement à quel niveau, je pense que globalement, on s'endort assez. Enfin, c'est régulier que tu t'endormes un petit 5 minutes ou un petit. Mais parfois, tu t'endors, mais sans vraiment savoir si tu t'es endormi. Parce que ton esprit est quand même dans le film. Et du coup, tu rêves du film plus ou moins. Et tu sais plus si c'était dans le film ou pas, ou que c'était dans ta tête. Machin. Et moi, je dirais celui où je me suis endormi, mais c'était à longtemps. C'était Burning. Et je regrette un peu. Mais en fait, quasiment fin de festival. Tu commences à. T'es déjà à 25 films vus. Tu commences à être. Voilà, et puis là, d'un coup, en plus, Burning, c'est vraiment le rythme. Bon, c'est fait pour que tu puisses. Enfin, c'est très poseur, quoi. Et donc, forcément, ça te calme dans un festival comme ça. Et j'avoue que là, je sais pas combien j'ai perdu, mais j'ai pas suffisamment vu pour pouvoir en parler correctement, quoi.
Il n'y a pas une règle tacite qui dit que c'est au-dessus de 20 minutes de film manqué que t'as pas le droit d'en parler ?
Mais qui dit ça ?
Pas 20 minutes, 20% du film.
Ça dépend. Si...
Ouais, voilà. C'est Twitter qui
ouais,
dit
parce
ça.
Que j'allais dire 20 minutes sur un film de 3h32, je pense que c'est pas grave. Mais sur un film d'une heure 20, ça fait déjà beaucoup. Hein.
Ouais, c'est terrible parce que du coup, c'est l'année où Kore-eda a eu la palme avec
une
affaire de famille. Et j'avais vu tous les films de la compète. Et vraiment, c'est le seul où j'ai dormi, mais je pense la moitié du film. Et évidemment, c'est le moment où il chope la palme. Et je me dis, j'avais l'air bien, bien con à ce moment-là.
Et moi, souvent, il se passe un truc bizarre, tu sais, effectivement, un peu comme le disait Alex, tu te rends pas compte que tu t'endors parce qu'en fait, ton rêve intègre les images du film et commence, même si le film est en langue étrangère, commence à inventer une langue qui veut dire quelque chose pour toi dans le rêve. Tu te rends même plus compte que tu lis pas les sous-titres. Ça devient n'importe quoi. Mais bon, ouais, c'est au bout d'un certain nombre de jours de festival et très très peu d'heures de sommeil, quoi.
C'est ça, mais bon, enfin. On peut dire qu'on a quand même été au Festival de Cannes cette année et qu'on a vu quand même beaucoup de films sans s'endormir. Attention. Et justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à ce Festival de Cannes ? Je sais pas, pour vous, bon cru, mauvais cru cette année ?
Plutôt bon cru quand même. Puis pour une fois, surtout, le palmarès était quand même cohérent avec la qualité des films présentés. Donc pour le coup, non, plutôt satisfait.
Ah ouais, moi j'étais plus enthousiasmée par l'année dernière ou même celle d'avant. C'est pas un mauvais cru, mais disons moyen. Après, c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion de voir moins de films que vous, mais disons sur ceux que j'ai vus, j'ai pas eu de coup de cœur aussi énorme que quand j'avais vu EO ou Falcon Lake par exemple.
Ouais, toi c'est une dizaine de films, Judith à peu près. Toi, Antoine,
25,
c'est, voilà,
25 pile poil moins.
Ok, moi
par jour.
Par jour. Voilà. Okay, le fait que j'ai peut-être un peu dormi. Du coup.
Ok, bon, moi je suis à 39, mais en même temps je suis resté tout le festival, donc voilà. Bon, alors du coup, tu disais le palmarès est plutôt très positif. On va en revenir un petit peu dessus. Bon, alors on va parler des herbes sèches, par exemple. C'est le prix d'interprétation féminine pour Merve Dizdar. Je crois que je suis le seul à l'avoir vu ici.
Ouais, malheureusement.
Voilà. Alors l'histoire, c'est en gros, c'est l'histoire d'un enseignant. Donc ça se passe en Turquie. C'est un film de Nuri Bilge Ceylan. C'est un grand habitué du Festival de Cannes. Il a déjà eu la Palme d'Or. Il a déjà eu un Grand Prix. Enfin, il a déjà eu plein de prix là-bas. Et en gros, c'est l'histoire d'un professeur qui est un peu dégoûté de la vie, qui en a un peu marre de s'occuper de ses élèves, tout ça. Et puis il fait une rencontre d'une jeune femme. Donc c'est elle qui a gagné le prix d'interprétation. Moi, j'avoue que je trouve que c'était pas le plus évident comme prix, le prix d'interprétation féminine, parce qu'il y avait énormément de grands rôles féminins, je trouve, cette année.
Ouais.
Et je trouve que, pour le coup, celui-là, c'est, enfin, j'aime bien le fait que Les Herbes Sèches aient été récompensées, parce que moi j'ai eu un peu de mal avec le film. Je trouve que le film est, bon, il fait 3h17, les deux premières heures j'ai pas dû pas rentrer dedans, donc forcément bah, ça devient un peu long, et la dernière heure est vraiment magnifique, et c'est celle où justement le personnage féminin prend, enfin amène de l'âme, du cœur au film, donc je trouve que c'était plutôt un bon choix.
Ouais. Bon, et du coup, le prix d'interprétation masculine, pareil, désolé, t'étais le seul à avoir vu le Wim Wenders, parce que moi, j'étais plus là à Cannes à ce moment-là. Mais du coup, pour le coup, tu trouves ça. Enfin, tout le monde avait l'air de trouver ça super cohérent comme choix.
Ouais, bah, à l'inverse des rôles féminins, je pense que il n'y avait pas énormément de grands rôles masculins, justement, cette année, en opposé. Et je pense qu'il n'y avait pas mieux que Koji Yakusho, là, pour Perfect Days. Donc, il joue un agent d'entretien dans des toilettes, qui nettoie les toilettes de Tokyo, quoi.
Rôle super sexy.
Et c'est sûr que c'est pas super sexy sur le papier, mais du coup, tout le film repose sur lui, sa manière de vivre, de se contenter d'une vie assez simple d'agent d'entretien qui regarde la nature quand il fait ça, etc. Quand il rentre chez lui, il lit, tout ça. Et c'est une ode un peu à la simplicité de la vie, et lui, du coup, ben, il rend ça très beau. Et le film est porté par lui, donc il n'y avait pas vraiment de concurrence par rapport à ce prix. Et c'est un prix très très mérité.
Et pour le prix de la mise en scène, je serais curieuse d'avoir ton avis, parce que donc moi j'ai pas vu le film, mais j'ai eu des retours assez mitigés, enfin différents on va dire, contraires sur le film.
Ah oui, La Passion de Dodin Bouffant. Alors ça c'était un peu le film que j'attendais pas du tout. C'était un peu le film que je me disais, bon je vais aller le voir parce qu'il faut aller le voir, au cas où il est la palme, mais... Clairement, l'histoire d'amour entre Eugénie et Dodin, donc deux personnes qui font de la cuisine et qui, bah, du coup, à force de cuisiner, vont créer une relation amoureuse, etc. C'est Benoît Magimel et Juliette Binoche. Je m'attendais à un truc complètement... ça se passe dans les années, au 19e siècle ou début du 20e, et je pensais que ça serait un peu naze. Et en fait, c'est ça qui est très impressionnant dans le film, c'est que la mise en scène... Bon, pour le coup, le prix de la mise en scène, c'est vraiment le prix qu'il méritait, je pense. Et en gros, c'est une ode à la gastronomie française. Les 30 premières minutes, c'est littéralement eux qui cuisinent et qui se disent « Oui, rajoute un peu d'eau dans le bouillon. Oui, mets ça au four. Ah, tu peux me passer le sel, machin. Ah bah, goûte cette sauce. Dis-moi ce qu'il y a dedans. Ah, un peu trop de persil, un peu pas assez, machin. » Ok, d'accord, mais c'est hyper intriguant. Et puis au milieu, t'as Benoît Magimel. Donc pendant le film, après, ils font déguster. Donc le film, c'est régulièrement Bon Appétit, bien sûr. Hein. Donc c'est globalement juste des mecs qui se lisent des recettes et qui se disent waouh, ça a l'air bon, et ça a l'air très très bon. Et puis parfois t'as des enchaînements, genre à un moment donné ils confectionnent une poire en dessert, et puis la poire se transforme dans le corps dénudé de Juliette Binoche, comme une invitation au plaisir de la chair. C'est assez
c'est le top chef, voilà, des intellos.
C'est un peu ça, ouais. Mais du coup c'est vraiment très impressionnant, parce que quand ils filment juste des gens qui cuisinent, et ils te rendent ça hyper cinégénique.
Alors je me souviens que tu disais quand même que c'était un des films que, voilà, comme tu disais, que t'attendais le moins, tu disais ah ouais, putain, j'ai pas envie de voir ce truc là et finalement le lendemain t'es ressorti, tu m'envoies un message pour dire c'était trop bien, La Passion de Dodin.
Ah ouais, j'ai été absorbé total, ouais. Et puis il y a Benoît Magimel qui joue un peu une sorte de mélange entre lui dans Pacifiction, donc déjà bon, ça envoie le délire, et avec des répliques un peu à la OSS chelou, voilà. Donc enfin ça c'était excellemment drôle et excellemment filmé.
Ouais, on n'a pas dit justement qui l'a réalisé.
Oui, c'est Tran Anh Hung. Bon, il était un peu disparu. Enfin, il n'avait pas disparu. C'est juste que pour l'instant, ce qu'il avait fait ces derniers temps, c'était un peu nul. Mais il avait quand même reçu la Caméra d'Or il y a très longtemps. Je ne sais plus quand est-ce que c'était. En 93, voilà, c'est ça, pour L'Odeur de la papaye verte. Donc, le monsieur ne vient pas de nulle part. Il avait même reçu le Lion d'Or 2 ans après, en 95. Donc, voilà. Bon, bon retour, j'ai envie de dire.
Et dans les réalisateurs plus affirmés, disons, on a eu le retour de Kouris Maki en prix du jury avec Les Feuilles Mortes. Et ça, pareil, t'as plutôt kiffé.
Bah, en vrai, comme on dit, le palmarès, moi, je le trouve vraiment bon pour une fois cette année. Ruben Östlund et son jury ont fait des excellents compromis, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de gros oublis, ni rien. Et Les Feuilles Mortes, c'était un peu le chouchou de la presse internationale, en tout cas. Celui qui avait reçu la meilleure moyenne. Et donc, bon, ça, c'est l'histoire de deux personnes solitaires qui essayent de trouver l'amour et puis qui se rencontrent. Et puis qui vont au cinéma, qui se donnent le numéro, et puis le numéro disparaît, sauf qu'ils se sont pas échangés leur prénom, donc ils ont du mal à se retrouver, etc. Et c'est très, enfin c'est le, si les gens qui connaissent le cinéma de Kouris Maki voient de quoi je parle, mais c'est un cinéma très minimaliste, quoi, qui c'est des petits plans où les personnages sont dans des pièces assez vides et contemplent un peu ce qui leur manque dans leur vie, quoi, globalement. Et c'est assez intéressant comme cinéma, parce que c'est un cinéma qui est un peu ancré. Alors pour le coup, il est ancré dans quelque chose de très contemporain, puisque à la radio ils entendent en permanence qu'il y a la guerre en Ukraine, etc. Donc on sait dans quelle période on est, et en même temps tout ce qui est les décors, l'univers est fait très enfin est très bloqué dans le passé, quoi, dans les années 80, les années 70, voire plus. Et donc c'est ce qui rend l'histoire très universelle. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là.
Est-ce qu'on peut noter un petit champ lexical dans les titres quand même cette année entre les feuilles mortes et les herbes sèches?
C'est vrai.
Ne manque que les fleurs coupées et le blé bolé. Peut-être l'année prochaine.
Exactement. Non mais c'est vrai qu'il y avait peut-être une petite tendance sur la nature.
Un retour, bah voilà, après le Covid, un retour à la nature. Tu vois, on avait envie.
Oui,
de...
bah la nature à moitié morte hein, du coup, mais ouais. On est joyeux.
C'est l'état de la planète. Après, on n'y peut rien. C'est comme ça.
C'est ça. Et puis après, pour le reste du palmarès, il y a eu prix du scénario. Donc ça, on est plusieurs à l'avoir vu.
Ouais.
Il y a eu le prix du scénario pour Monster de Hirokazu Koreeda, mais qui a été scénarisé par Yuji Sakamoto. Toi Antoine, bon, nous on l'a vu tous les deux, qu'est-ce que t'en as pensé?
Alors pour le coup en plus c'est un peu compliqué parce qu'il est passé en début de festival, donc je trouve qu'en plus dans ce genre de cas c'est un film que t'as tendance un peu à oublier une fois que tu t'es fait 20 films dans la foulée. En gros le principe de Monster c'est que ça repose sur un enfant qui est accusé de harcèlement sur un autre gamin et du coup son prof essaie de réagir à ça, la mère essaie de comprendre ce qui se passe, donc tu as en fait tous ces personnages là qui se retrouvent et le film choisit de faire une Rashomon, hein, comme on dit dans le milieu, donc de diviser le film en plusieurs points de vue, en trois parties du coup, et le film voilà, te révèle ces trois parties là qui, moi j'avoue, je vois ce qu'il veut faire avec ce procédé là, c'est pas inintéressant, mais le problème c'est que je trouve que le film s'étiole pas mal à cause de sa durée, et surtout c'est son choix aussi, c'est que finalement là, sans vouloir spoiler quoi que ce soit, la résolution du film est assez simple finalement, et t'as presque envie de te dire tout ça pour ça, c'est un peu le procédé du film que justement de te dire les gens ont la mécanique du mensonge et du oui-dire a amené à une escalade qui n'est pas du tout ce qu'est la réalité. Mais je trouve que c'est faire beaucoup de bruit pour pas grand-chose.
Ok. Ouais, moi, je me souviens quand on est sortis tous les deux, on n'était pas vraiment d'accord. Et moi, je suis plus positif que toi. Je trouve que le film est... Je trouve ça joli, en fait. Il est peut-être un peu engoncé dans la structure. C'est ce que tu dis, le fait que ça soit en Rashomon. C'est une bonne idée et en même temps bah, ça l'oblige à être enfermé dans une mécanique un peu, une structure un peu bah, déjà vue et où on s'attend un peu à ce qui va se passer. Et en même temps je trouve que c'est tellement délicat, tellement poétique. Moi je suis pas très fan du cinéma d'Hirokazu Koreeda, hein, le cinéaste japonais, mais pour le coup j'ai été charmé par cette forme de tendresse pour les personnages. Et puis j'aime bien cette histoire de malentendu, de secrets, de inavouables, enfin pas vraiment inavouables, mais qu'ils ont du mal à parler, quoi, tout simplement.
Oui.
Et donc ils gardent pour eux, et donc personne ne communique réellement entre eux, et puis bah forcément du coup ça amène à des malentendus, des problèmes, et j'ai trouvé ça très beau.
Oui, voilà, c'est maîtrisé, je suis assez d'accord avec toi, hein. De toute façon c'est Koreeda, hein, c'est toujours solide, mais pour le coup il m'a manqué moi un petit souffle pour m'emporter, contrairement au Grand Prix, qui était, je pense, on peut le dire, notre chouchou du festival. The Zone of Interest de Jonathan Glazer, qui en plus était, moi perso, le film que j'attendais le plus de la compète, puisque Jonathan Glazer, donc réalisateur génialissime de Birth, Under the Skin ou encore de Sexy Beast, qui du coup n'a fait que 3 films en 25 ans, et donc là c'est son 4e long métrage, et il choisit la facilité avec un film donc tiré d'un bouquin de Martin Amis sur Rudolf Hess, qui était donc le commandant d'Auschwitz, et comment en gros le film suit son quotidien dans la maison idyllique qu'il se construit avec sa femme et ses enfants aux abords du camp de concentration et d'extermination. Et le film est juste le truc le plus glaçant qu'on ait pu, et le plus génial qu'on ait pu voir durant ce festival.
Ah ouais, enfin clairement je pense que je m'en souviendrai pendant des années. C'est vraiment un film qui est marquant dès sa première séquence, qui ben en fait la première séquence déjà c'est pas une séquence visuelle, hein, c'est le film repose énormément sur le son, et la première séquence c'est littéralement un écran noir pendant 2 minutes où on entend juste des sons terrifiants
et la musique dissonante, une
musique de Mika Levy qui vient déjà nous mettre dans une ambiance bien bien sombre, quoi. On se dit ah on, bon mood là début, hein. Et ensuite il y a cette ouverture avec cette petite famille dont on sait pas, qui est déjà en train de faire un pique-nique à l'origine. Et puis ensuite ils rentrent chez eux, on sait pas trop ce qui se passe, on sait pas trop qui ils sont. Et puis soudain on se comprend que c'est plus ou moins un commandant, ou en tout cas quelqu'un qui est nazi. Et donc là, ils lui bandent les yeux parce que c'est son anniversaire, ils lui montrent un cadeau, etc. Et puis d'un coup, il y a champ contre champ. Et puis on découvre ce qu'il y a derrière lui. Enfin, c'est Auschwitz, quoi. Ouais, et donc voilà, c'est vraiment... C'est
d'un coup, jamais, t'es... bon, c'est pas un spoil, hein, mais jamais, en fait, on ne te montrera le camp. Tu restes dans cette maison qui, en plus, est séparée par cette espèce de mur qui bloque l'horizon et qui, du coup, ne te permet jamais de voir le camp. Et là où je trouve le film absolument génial, c'est que déjà, Under the Skin, c'était presque un film où tu sentais que Glazer voulait presque s'effacer en tant que réalisateur pour prendre presque l'œil objectif de la caméra, pour coller à ce point de vue de cet alien qui découvre ce qu'est l'humanité et qui comprend que c'est plus complexe que ça. Et là, il fait un peu la même chose. C'est comment tu observes quasi au microscope l'absurdité du nazisme et l'horreur de la Shoah qui, de toute façon, est irreprésentable. Donc, comment tu représentes l'irreprésentable? Bah, tu ne montres pas. Tu te contentes d'un son ambiant, de bruit de machine que tu supposes être les fours et les cris des juifs et tu vois
de la fumée loin,
de la cheminée d'un train de la locomotive d'un train qui passe au loin pendant que eux sont dans cette espèce de jardin idyllique de cette espèce de jardin d'Éden complètement improbable. Et en fait, bon, le film est ultra complexe et j'ai qu'une envie, c'est de le revoir, mais t'as dans tout ça vraiment un rapport au hors-champ qui est brillantissime. Et en même temps, cette idée de comment, voilà, tu t'attelles à comprendre ce qui est incompréhensible. Et pour final, je trouve t'amener à cette idée que toi-même, si t'avais été dans cette situation-là, est-ce que t'aurais vraiment trouvé ça aussi inhumain ou est-ce que t'aurais été comme eux à s'habituer à l'horreur qui est vraiment juste au palier de leur porte, en fait.
Bah, c'est un peu ce qui explique le film d'une certaine manière. C'est comment, en fait, à cette époque, bah, beaucoup de gens ne savaient pas vraiment ce qui se passait là-bas, en tout cas chez les nazis, et faisaient tout pour que ça ne se sache pas vraiment, parce que eux-mêmes, bah, ils habitent littéralement à l'entrée de la porte. Hein.
Oui, mais ils savent justement. Oui, mais ils savent, mais ils font.
Oui,
comme
mais
si,
pas tous, parce que quand t'as la mère de la femme du commandant qui vient, tu te rends bien compte qu'au final, elle sait pas vraiment ce qui se passe dans ce camp, et quand elle découvre ce qui se passe, bah, c'est un vrai choc pour elle, même alors qu'elle est un soutien des nazis et compagnie. Et c'est vachement intéressant de voir un film qui filme de cette manière, qui essaye de faire coexister de cette manière la beauté de la nature, donc ce que tu disais avec ce jardin, les autours aussi, enfin ils vont plus loin, ils vont aussi vers une rivière pour pêcher, etc., faire des pique-niques, donc... Et puis de l'autre côté, t'as toute l'horreur qui finalement est dissimulée, parce que ben, ils veulent pas... Pour eux, c'est normal, mais comme il y a quelque chose, comme tu disais, de complètement absurde quand tu as cette réunion des grands de l'armée
nazis
qui viennent et puis qui disent, bah voilà, on a une nouvelle idée pour les fours à crématium. Et t'es en mode, ah oui, d'accord, prend le café autour et puis un petit thé et puis vas-y qu'on discute de comment on va brûler.
Et tout est de la métonymie, parce qu'à ce moment-là. Une jeune juive qui est bonne chez eux récupère les bottes du personnage principal et les nettoie, et tu vois qu'il y a du sang qui reste dans l'eau, donc tu le film est d'une... Alors certains ont totalement été dans le rejet de cette démarche-là, mais moi je trouve que c'était la démarche parfaite à avoir sur un sujet comme ça, et ça prouve que Glazer est définitivement un des plus grands cinéastes en activité, et qu'il est trop rare, mais que limite, bon, c'est bien s'il met autant de temps pour faire un film, mais que c'est aussi excellent.
Ah bah ça c'est sûr.
Et en tout cas, enfin... Qu'on aime ou pas, The Zone of Interest est non seulement un film à recommander, mais c'est surtout le film qui a laissé personne indifférent pendant le festival, parce que du coup, il a autant eu, pour certains, c'était la palme d'office, pour nous deux, comme pour d'autres, c'était l'un des trucs les plus abjects qu'ils avaient pu voir durant le festival.
Et je me posais la question, du coup, pour moi qui n'ai pas eu la chance de le voir, mais qui suis vraiment très très hypé par tout ce que j'entends dessus, je me posais la question parce que finalement la Shoah et les horreurs autour, c'est des choses qui ont été mais moult et moult fois représentées au cinéma et dans les autres formes d'art. Est-ce que vous avez l'impression que du coup c'est un peu la première fois qu'elle est traitée de cette manière, malgré toutes les manières dont elle a pu être traitée?
Bah, en fait, je pense qu'il est dans l'héritage parfait de ce que Claude Lanzmann voulait faire, c'est-à-dire de se dire... On ne peut pas représenter avec les artifices du cinéma ce qu'est l'horreur de la Shoah. Donc le mieux, c'est de faire du plan fixe, d'éviter au maximum d'utiliser la grammaire du cinéma. Alors en l'occurrence, je ne pense pas que c'est ce que fait The Zone of Interest, parce que toute la réflexion sur le hors-champ est une pure réflexion de cinéma. Donc c'est vraiment quelque chose de très pensé, de très stylisé finalement. Mais je pense qu'il est dans cet héritage-là de se dire... d'éviter le sentimental que, par exemple, certains ont pu reprocher à Spielberg sur la liste de Schindler ou ce genre de choses-là. Donc, c'est pas nouveau, mais disons que ça a été, surtout récemment, pas fait avec une telle maîtrise et avec ce point de vue-là, en fait. Non pas d'un point de vue des victimes, mais d'un point de vue des bourreaux. Et ça, c'est peut-être là que le film se démarque vraiment.
Ouais, je pense que c'est exactement ça. C'est que moi, j'avais jamais vu un film qui regarde comment les nazis vivent la Shoah et l'extermination des juifs et d'autres de cette manière, quoi. Pour eux, c'est la vie normale.
Ouais.
Voilà. Et du coup, on nous montre comment ça se passe. Et c'est, on parlait de dispositifs un peu documentaires, mais c'est un peu ce qui s'est passé parce qu'au final, il a posé Glaser, il est lui-même juif, et là, il a pas voulu. Enfin, ils ont tourné à Auschwitz, hein, littéralement, à côté. Ouais. Et juste à côté. Et donc, au final, ils voulaient pas vraiment être sur le plateau et ils voulaient qu'il y ait quelque chose d'assez, très minimaliste, on va dire, sur le plateau. Donc, il y a personne sur le plateau à part les acteurs. Et il a posé une dizaine de caméras dans la maison. Et en fait, elles filment plus ou moins en continu. Elles ont des focus, des mises au point automatiques. Et en fait, les gens passent et il y a pas vraiment de. Enfin, il y a un script à suivre, il y a un scénario, il y a des dialogues, et j'imagine. Mais il y a une forme de je filme. Ce qui aurait pu se passer ou ce qui s'est passé plus ou moins sans intervenir sur le plateau, quoi, ou de loin en tout cas. Et pour le coup, c'est aussi quelque chose d'hyper intéressant dans la manière dont ça a été conceptualisé, quoi.
Mais du coup, c'est le vrai camp qu'on voit à l'écran?
Je pense pas que ça soit le vrai camp, vu comment c'est filmé, je pense pas, parce que de toute façon, en plus, c'est plus ou moins c'est reconstitué, les murs sont nets, c'est comme à l'époque, quoi.
Oui, et puis encore une fois, le camp, tu le vois pas vraiment, en fait.
En plus,
tu vois même pas la silhouette au loin, ou
non, tu vois que des cheminées qui dépassent,
on voit des cheminées ou les hauts des bâtiments, comme on disait, c'est vraiment un film de hors-champ, donc le hors-champ, il est à la fois visuel, mais il est à la fois sonore. C'est-à-dire, on entend des cris, mais on verra jamais la personne qui crie.
Oui.
On verra de la fumée, mais on verra jamais vraiment si ça vient d'un camp, d'un four à crémation ou d'un train, mais plus ou moins par rapport au mouvement de la fumée, etc.
C'est quand même une des scènes les plus terrifiantes du film sur un des enfants de la famille nazie qui, là aussi, tu te dis, il y a une forme d'innocence, peut-être qu'il comprend pas, et en fait, si, il comprend très bien, puisqu'il y a à la fenêtre, il entend un juif qui essaie visiblement d'échapper à quelqu'un qui s'apprête à lui tirer dessus. Et lui va à la fenêtre, voit du coup ce qui se passe, ce que nous, on ne voit pas. Et il parle à ses jouets après, en disant clairement...
plus ou moins, il refait la scène, ses jouets. Quoi.
Voilà, et en disant, t'avais qu'à pas essayer de partir, quoi. En gros,
quel enfer.
Et le truc est vraiment glaçant.
Ça doit être très, très dur à regarder. Hein. Moi, je suis sensible à ces sujets-là.
C'est un film assez dur et c'est sûr que c'est difficile de conseiller à tout le monde comme ça en claquant des doigts. Quoi.
Oui, mais c'est en tout cas un très grand film et le grand prix n'était pas volé. Personnellement, j'aurais trouvé ça génial qu'il ait la palme, mais en même temps,
la palme d'or
est tout aussi méritée, voilà. Puisqu'elle a été donnée à Anatomie d'une chute de Justine Triet et qu'on est pour le coup tous les trois à avoir vu. Et
justement, on est tous les trois à l'avoir vu. Alors, Judith, qu'as-tu pensé de cette palme? Alors, je rappelle juste de quoi ça parle, cette palme, sauf si tu veux le faire.
Écoute, vas-y, tu es bien lancé.
En gros, c'est une famille de... Il y a une femme qui est écrivaine, célèbre, qui s'appelle Sandra. Il y a son mari, Samuel, qui travaille plus ou moins dans... qui est en train de refaire leur chalet. Et puis, ils ont un enfant qui s'appelle Samuel, qui a 11 ans, qui est aveugle, quasiment aveugle en tout cas.
Malvoyant, oui.
Voilà, après un accident, etc. Et puis, un jour, Samuel, donc le père, il est retrouvé mort. Il est retrouvé par le fils qui revient d'une promenade. Et est-ce que justement il s'est suicidé, ce père, ou est-ce qu'il a été
tué
par sa femme, ou en tout cas tué par quelqu'un? Et donc c'est toute l'histoire du procès, de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, quoi.
Alors moi j'ai trouvé que le film était vraiment balèze, en fait. Je trouve que le film très fort. Après j'ai été laissée dans une sorte de vague au sortir de la séance, où à la fois j'avais l'impression de m'être pris quelque chose vraiment dans la figure, et en même temps une impression de pas avoir été aussi bouleversée que j'aurais pu l'être dans d'autres circonstances, parce qu'en fait Justine Triet fait le pari de laisser planer le doute un peu tout au long du film sur la culpabilité ou non du personnage principal, et en fait du coup elle prend le pari d'en faire à la fois le personnage principal et un personnage dont on va rester relativement extérieur au point de vue, pour pas qu'on ait trop accès à ses émotions, pour pas qu'on ait trop d'indices. Et du coup, il y a une sorte de froideur qui s'en dégage, surtout qu'en plus, la comédienne Sandra Hüller, elle est quand même aussi elle-même, elle dégage quelque chose d'assez froid, quelque chose d'assez dur. Mais d'ailleurs, c'est très fort ce qu'elle fait, hein, parce qu'elle est à la fois très touchante par moments, et en même temps, elle a cette espèce de mur, de bloc qu'elle représente, de solidité. C'est très intriguant, parce qu'on imagine qu'elle traverse quelque chose d'absolument horrible. On imagine qu'elle est en train de vivre un deuil et d'essayer de le vivre à travers, malgré en tout cas tout ce qui se passe au tribunal, etc. Et en même temps, on n'a pas accès, c'est pareil, c'est vraiment dans la suggestion. Donc il y a quelque chose de très fort dans tout ça. La mise en scène est extra, l'utilisation du son est extra, le gamin il est très bien aussi, la manière dont il joue justement sur le fait qu'il soit malvoyant, toute la culpabilité qui est suggérée aussi que les parents ont pu ressentir après l'accident. Il y a énormément de choses. En fait, le film est assez long. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en fait, on sent vraiment le temps passer. Je trouve que le temps est pesant vraiment dans ce film. Et on vit les choses tellement intensément, vraiment. On n'a pas l'impression de regarder un film, en fait. On a vraiment l'impression de vivre les choses avec les personnages en temps réel. Et du coup, on ressent la longueur et en même temps, on la subit pas. C'est vraiment... comme la vie peut te paraître longue, mais voilà, quoi, pas comme un film peut te sembler chiant, c'est pas ça.
Pour me l'être maté à 8h30 le lendemain matin, où j'étais bien fatigué, je suis pourtant resté accroché au film du début à la fin, sur ces 2h30 qui passent à une vitesse folle, parce qu'on se dit, mais t'as envie de capter, en plus, comme t'es un peu extérieur à ce point de vue-là, t'as qu'une envie, c'est de capter à moins de micro-expression, de te dire,
oui.
J'ai envie de moi aussi d'essayer de comprendre comme un membre du jury, en fait, et aimerais essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et moi, c'est là que le film, pour le coup, me chope, parce que derrière la froideur affichée de Sandra Hüller, qui d'ailleurs a tout remporté cette année, puisqu'elle était également dans The Zone of Interest, où elle joue la femme du commando nazi, donc... madame, bravo pour vos choix de carrière, vous êtes très très forte. Et là, je trouve que c'est très beau. Enfin, ce qui me passionne vraiment dans ce film-là, c'est comment la complexité d'un couple, avec tout ce que ça peut avoir de bassesse, de réactions viscérales, et du coup, qui peuvent être considérées comme étant, pas répréhensibles, mais du coup, qui amènent à se demander si les gens ont mal agi derrière et qui viennent autant d'elle que de lui, font que derrière, surtout, leur vie est étalée pour servir le procès. Et du coup, à partir de là, est-ce que... On a le droit de se servir de la complexité de leur vie intime pour définir ou pas si elle est responsable ou pas de sa mort. Et là, je trouve que le film là-dessus est extrêmement fort.
Oui, parce que l'anatomie d'une chute, finalement, c'est évidemment l'anatomie de la chute du mari quand il meurt. Est-ce qu'il a été poussé ? Il y a toute une reconstitution par des experts de savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut interpréter cette chute, etc. Mais c'est aussi la chute d'un couple, globalement, la chute d'un amour, la chute d'une famille... Et c'est super intéressant. Et moi, ce que je trouve intéressant, alors, il y a évidemment les interactions conjugales, les interactions parentales aussi avec le gosse, etc. Tout ce qui est les jeux, enfin pas les jeux, mais les dynamiques un peu de pouvoir, de manipulation dans un couple, de qui mène la danse ou qui la subit, etc. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est quand même quand Justine Triet, du coup, déjà, elle retourne un peu le genre du procès. C'est pas la victime est un homme et l'accusée est une femme, ce qui est assez rare sur le principe, on va dire, dans ce genre de film. Et c'est vachement intéressant de voir que, justement, en faisant ça, elle permet de regarder comment la justice ou même la société regarde une femme de manière bien plus... juge beaucoup plus durement une femme qu'un homme dans ce genre d'affaires, notamment comment au final elle est jugée plus par rapport à ce qu'elle est dans la vie, c'est-à-dire une femme assez libérée sexuellement, une femme qui a eu du succès plus que son mari et qui lui le vivait très mal, et que du coup elle est plus jugée par rapport à ce qu'elle est que par rapport à ce qu'elle a potentiellement fait, c'est-à-dire tuer son mari. Et je trouve ça vraiment assez remarquable pendant les 2h30, quoi, parce que ça m'a captivé, même si je trouve le personnage très froid et le film assez froid, comme tu disais, Judith. Ça m'a complètement captivé pendant tout le film, quoi.
Et alors, autre chose que j'ai trouvé brillant, parce que donc effectivement, moi, je suis d'accord pour dire qu'à la fois le film m'a pas bouleversé comme je pouvais m'attendre à ce qu'il le fasse, mais qui m'a quand même fasciné par certains aspects, et notamment alors parce que j'ai eu la chance de m'entretenir brièvement avec Justine Triet, et elle me disait que elle me disait qu'en fait elle s'était inspirée de films de procès parce qu'elle adore ça comme Autopsie d'un meurtre, bien sûr, d'Otto Preminger, et en fait elle me disait que ce qui est passionnant dans un tribunal, c'est qu'en fait c'était ces termes, c'est qu'on vole la vie des personnes qui sont accusées, parce qu'en fait, pour réussir à reconstruire l'histoire à laquelle on n'a pas assisté, on est obligé d'exagérer les choses, d'exagérer d'un coup la culpabilité selon le camp où vous êtes ou au contraire votre innocence, et donc à fictionnaliser, parce qu'à partir du moment où on transforme la vérité, où on l'exagère, on la fictionnalise, on fait la fiction, et que donc voilà, après il y a tout un jeu de regard et de point de vue qui va se faire vis-à-vis de ça. Et ça me rappelle, en fait, pour moi c'est vraiment le même mécanisme que son film Sibylle, pour le coup, qui m'a beaucoup plus, que j'ai d'autant plus aimé, Sibylle, où là c'est pareil, on est face à un personnage de femme, donc celui joué par Virginie Efira, qui va finir par digérer les expériences douloureuse de sa vie en les faisant en fait incarner par d'autres, par ses patients en l'occurrence, à travers qui sont les personnages d'un film, enfin les acteurs et les actrices d'un film. et finalement à la fin où donc elle pleure devant la projection de ce film parce qu'enfin elle réussit à admettre et à assimiler les émotions que lui ont provoqué les propres événements de sa vie, mais elle a besoin de cette extériorisation pardon, et cette fictionnalisation de ses propres événements. Et du coup là c'est pareil, c'est la même fonction au tribunal, sauf qu'évidemment ça se fait de manière plus cruelle et plus froide qu'à travers un film, mais pour moi c'est vraiment ce qu'elle essaye de dire en tout cas et de montrer dans son cinéma jusque là. Je trouve ça passionnant.
Mais de toute façon le film raconte aussi beaucoup comment on raconte des histoires, comment la fiction peut avoir un impact sur le réel ou inversement le réel sur la fiction, et il y a forcément une question par rapport à ça aussi, sa vision d'artiste, puisque le personnage de la femme qui est incarnée par Sandra Hüller est une célèbre écrivaine qui a réussi et dont on évoque aussi son travail dans la littérature. Comment, du coup, ben, ce qu'elle a écrit dans la fiction par rapport à des personnages fictionnels peut potentiellement être la réponse à l'affaire.
Quand on lui retourne, parce qu'on dit qu'elle assume elle-même de mettre une part d'autobiographie dans ses ouvrages. Donc
est-ce que finalement, elle n'a pas... parce que dans un de ses livres, je ne sais plus, il n'y a pas une histoire de meurtre, de mari...
Elle évoque une pulsion de meurtre à un moment donné.
Et du coup, est-ce que justement, ce n'était pas prémonitoire, etc. Bon, bref. Mais enfin, en tout cas, c'est une très belle palme d'or, à mon avis.
Ouais. D'autant que, on l'a vu, le symbole était beau, mais comme Julia Ducournau, qui avait, elle, remporté la palme pour Titane, était dans le public, enfin, était dans le jury, pardon, et qu'on la voit au moment où Osloon annonce la palme, et on voit son sourire évident, et ce n'est que la troisième palme d'or accordée à une femme, donc... au-delà de la qualité intrinsèque du film, qui en plus nous met notre beau cinéma français plus que jamais en avant, c'est sûr que avec Zone of Interest, je pense que les deux étaient parmi les deux favoris, et du coup, bon, qu'ils se soient partagés ces prix-là était le résultat le plus logique et le plus beau qu'ils pouvaient faire.
Mais en termes de symbole, ce que tu dis, je reviens très rapidement là-dessus, mais tu vois, effectivement, moi je trouve que c'est hyper important parce que, évidemment, le film le mérite de toute manière, qu'il ait été réalisé par une femme ou un homme, mais c'est vrai qu'au moment de Julia Ducournau, on avait un peu l'impression que ça y est, il y a un palier qui était franchi. En même temps, il y avait la grosse interrogation de est-ce qu'un palier a réellement été franchi ou est-ce que c'est juste un symbole qui est jeté comme ça pour nous faire plaisir et ensuite on n'y reviendra plus et il n'y aura plus jamais de femme récompensée. Et du coup, là, dès cette nouvelle palme d'or, on a l'impression qu'on rentre dans la normalité de voilà, finalement, les femmes peuvent aussi bien être récompensées que les hommes, et c'est pas forcément un événement à chaque fois, parce que tout simplement ça va devenir normal. Et donc à ce niveau-là, c'est important. C'est
totalement. Ouais.
Du coup, très bon palmarès, mais est-ce qu'on n'a pas un peu. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu des films qu'on aurait envie de voir quand même dans ce palmarès toi, par exemple, Antoine, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un film?
Ah, oui, c'est un film, je sais que tu le partages avec moi, Alex, c'est Les Filles d'Olpha de Kauter Benania. Donc documentaire avec un dispositif ultra casse-gueule, du coup, sur une mère de famille qui a quatre filles, donc une Tunisienne avec ses quatre filles, ses deux filles aînées. Au début du film, tu ne sais pas pourquoi, mais ces deux filles aînées ont disparu. Et du coup, elles sont remplacées par des actrices, par la réalisatrice, pour qu'elles reconstituent des scènes de leur quotidien et de leur passé, pour comprendre justement ce qui a amené à ça. Alors, le film a un lien avec l'État islamique, en gros, pour le dire très concrètement. Et c'est à la fois un film sublime, parce que le dispositif pourrait vite amener à te dire « Oui, mais tu n'as qu'une vision des choses, et ça ne reste que de la reconstitution un peu cathartique. » Et en fait, pas du tout, parce que tu commences vraiment en étant du point de vue de la mère, qui en fait se fait totalement... Le point de vue se fait totalement parasité par celui des filles en cours de route, et tu sens que la réalisatrice y a vraiment pensé. Pour notamment amener cette idée assez terrible que la mère est en partie responsable par sa condition de femme tunisienne qui a eu des maris violents ou pas présents, qu'elle a une certaine idée de ce que doit être une femme en Tunisie, qui du coup a pas mal violenté ses filles pendant leur adolescence, quand elles essayaient de se découvrir, et ce qui a amené leur fille finalement à, comme découverte, à connaître l'État islamique et à finalement se radicaliser et à partir rejoindre Daesh, ce qui est assez, la bascule est assez terrifiante, et en même temps le film du coup est d'une émotion qui est jamais putassière, alors que ça pourrait clairement l'être, et ça laisse tellement la place à cette vision du documentaire qui vrille petit à petit à la fiction, mais à la démarche théâtrale qui est interrogée par ceux qui sont en train de la faire. Je trouve le film vraiment bouleversant, alors que ça avait tout pour vraiment pas marcher, et surtout parce que c'est un film qui ne se contente jamais d'un seul point de vue, qui a la malice vraiment de coller à tous ses personnages pour que tu aies quelque chose de très complexe et qui, au final, je pense, parle surtout des dogmes de la Tunisie d'aujourd'hui, de la complexité politique de cette Tunisie-là et de la place des femmes dans cette société-là. Et voilà, pour moi, c'est un film assez brillant et j'aurais bien aimé pour le coup qu'il chope un petit truc, peut-être pris de la mise en scène. Tu vois, pour le coup, ça aurait vraiment pas été volé parce que le dispositif est un dispositif de mise en scène plus que de scénario et ça, il aurait vraiment pas volé un petit prix pour ça.
Ouais, moi, j'ai au moins un petit prix du jury aussi, pourquoi pas. Je trouve, voilà. Je suis assez d'accord avec toi, le dispositif était hyper casse-gueule et puis c'est audacieux, c'est ambitieux aussi. Et il y a quelque chose d'assez intéressant dans le fait que les personnages redécouvrent un peu leur passé à travers des figures de fiction d'une certaine manière aussi et permettent d'exorciser leur démons du passé, mais aussi ceux qui sont encore imprégnés en eux et qui peuvent leur donner de l'espoir pour le futur. C'est assez beau comme film, ouais, je suis d'accord. Toi, Judith, un film
J'aimerais bien parler de Firebrand, qui a plutôt été une déception, finalement. Alors, je crois que c'est le jeu de la dame.
Le jeu de la reine.
Le jeu de la dame,
c'est les échecs.
C'est sur Netflix.
Oui, mais ouais, bref.
Le jeu de la reine,
donc de Karim Aïnouz. En fait, ça a été plutôt une déception, mais comme le sujet m'intéressait beaucoup et que je trouve que le film a quand même certaines immenses qualités, je trouve que ça vaut le coup d'en parler un petit peu. Donc, c'est un film sur Catherine Parr, qui était la dernière femme d'Henri VIII, donc le fameux roi anglais qui passait sa vie à faire décapiter ses femmes et ou à les répudier. Et donc, en fait, c'est la femme qu'il a eue jusqu'à sa mort. Sachant que le film propose une certaine interprétation de sa mort qui n'a rien d'historique, mais bon, c'est pas grave, c'est intéressant. Je trouve que ce qui est bien, c'est que le film a vraiment une relecture, pour le coup, du point de vue des personnages féminins et du point de vue des femmes sur cette dernière période du règne d'Henri VIII, qui est bienvenue parce qu'il est beaucoup question de sororité, en tout cas, ce qui peut subsister de sororité dans ce type de société où c'est pas facile, où les femmes ont à peine le droit de s'entretenir entre elles, où elles ont surtout pas le droit de dire un mot de travers vis-à-vis du roi. Et juste, ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, le film se rate un petit peu à ce niveau-là, parce qu'Alicia Vikander, dans le rôle principal de Catherine Parr, elle est très bien, mais par contre, aussi bien son rôle que son interprétation sont vraiment très lisses. Et en fait, du coup, ce qui ressort le plus du film, c'est Jude Law en Henri VIII, en fait, qui aurait presque pu avoir un prix d'interprétation masculine, parce que lui, c'est un rôle secondaire, mais il est extraordinaire, il est dégueulasse, il est répugnant, il est parfait dans ce personnage, alors qu'on l'imaginait pas spécialement, être un Henri VIII au départ, mais...
Beaucoup de gens sont sortis de la salle en disant,
mais c'était Jude Law dans le film. C'était Jude Law, mais oui. C'était Jude Law, oui.
Donc voilà, un peu décevant finalement, parce que malgré ses belles ambitions et ses très belles images aussi, il est d'un classicisme qui fait qu'il arrive pas spécialement à rendre son personnage féminin saillant, alors que c'était un peu le but. Donc voilà, un peu dommage et en même temps plein de choses intéressantes.
En même temps, comme tu le disais, il y avait presque une dimension un peu punk que le film voulait se donner, qui notamment ressort dans son générique d'intro et de fin, où il y a justement dans le
des
générique de fin
pop,
même des couleurs pop et puis un morceau rock dans le final. Sauf que effectivement, là où je te rejoins, c'est que je trouve le film très très solide, et d'ailleurs des fois ça fait plaisir, un truc qui est pas révolutionnaire d'un point de vue formel, mais qui tient très bien la route. Mais c'est vrai que du coup tu vois un film historique comme t'en as vu plein d'autres avant, avec des jolis costumes, d'une très jolie photo, mais tu te dis, mais en fait j'aurais aimé que pour le coup le fond très contemporain que le film veut se donner aille un peu avec la forme. Là, pour le coup, je trouve qu'il y a un petit manque de ce point de vue là.
Ah, c'est marrant, moi je pense que je suis le plus positif sur ce film en fait. Alicia Vikander, je la trouvais exceptionnelle, Jude Law, je le trouvais exceptionnel, et même si en effet il est peut-être un peu moins punk que ce qu'il voudrait être, il y a quand même... en fait, j'aime beaucoup le fait qu'on revisite cette histoire en permanence écrite par les hommes, et donc du coup par Henri VIII et ses sbires, du point de vue de sa dernière épouse, du point de vue de toutes les femmes qui l'entourent à ce moment-là, et de la manière dont elles vont se rebeller d'une certaine manière pour avancer elles-mêmes. Et...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Amené au règne aussi de Elisabeth, etc. Et je trouve ça assez, assez culotté. Et même, c'est quand même l'un des plus beaux films, je pense, que j'ai vu à Cannes en termes juste de photographie. Je trouve que c'est si beau de la manière dont c'est filmé, quoi, tout simplement. Et c'est des tableaux de la Renaissance sur chaque plan, quasiment, avec ce petit grain qui vient apporter quelque chose de vieilli et en même temps qui sublime l'ensemble. Et même la musique, moi, je la trouve très bien. Elle m'a fait beaucoup penser à Rawin Djawadi sur Game of Thrones. Donc, j'avoue que je me suis dit, ah, c'est un truc un peu épique, un peu... Enfin, ça m'a beaucoup plu, quoi. Et du coup, moi, je dirais que j'ai eu beaucoup de coups de cœur à Cannes. Hein, donc, je dirais qu'il y a L'Enlèvement de Marco Bellocchio, qui est un film italien sur un kidnapping d'Edgardo Mortara, etc. Mais je pense que j'aurais beaucoup aimé voir Club Zero dans ce,
oh, mais putain,
dans ce
pitié,
palmarès.
Voilà. Mais du quel coup, enfer.
Club Zero, je sais que c'est un peu le film qui nous a divisé et voilà, mais enfin moi en fait pour rappeler l'histoire, c'est en gros, c'est une jeune professeure qui est jouée par Mia Wasikowska, qu'on avait pu voir dans Crimson Peak par exemple, et qui rejoint donc un lycée privé de Bourges, hein, globalement. Oui. Et qui va avoir un cours de nutrition, tout simplement, où elle va initier les certains étudiants à un cours sur
l'alimentation,
voilà, ça. Exactement. Et au fur et à mesure, ça va basculer dans une dérive évidemment sectaire, et personne ne s'en rend compte. Et donc les jeunes commencent à rentrer sous son, enfin,
à moins manger,
quoi, à moins manger en effet. Et elle devient une sorte de gourou qui prêche la bonne parole auprès d'eux, en tout cas sa bonne parole, et eux commencent à y croire et à subir un peu son joug.
Explique-nous pourquoi tu as mauvais goût, Alex, du coup.
C'est un film de Jessica Hausner.
C'est un film de Jessica Hausner, l'Autrichienne, qui avait déjà été récompensée. Elle n'a pas été récompensée, mais elle avait déjà eu Little Joe à Cannes en 2019, je crois, et ça avait eu le prix d'interprétation féminine. Ce que n'aurait pas volé Mia Wasikowska, je pense. Mais. C'est vachement intéressant parce que du coup, on n'a pas du tout le même point de vue, tous les deux, Antoine et Judith, t'es un peu entre
milieu.
Nous.
Ouais.
Je trouve le film vraiment passionnant, déjà dans son dispositif. C'est des plans fixes, c'est uniquement quasiment des plans fixes avec des longs zooms ou des longs dézooms avec des grands angles, etc. Et puis, je trouve ça passionnant de filmer et de raconter quelque chose, la dérive d'une secte, quoi, globalement, la création d'une secte, et sur un sujet aussi, en prenant un sujet aussi qui ne peut pas amener théoriquement à une secte, quoi, faire croire aux gens quelque chose d'aussi improbable, c'est-à-dire ne pas manger, ça passe.
C'est OK.
Ça passe. On peut survivre sans manger. Et je trouve ça vachement intéressant parce qu'au final, tu donneras ton point de vue plus tard. Mais en fait, pour moi, c'est pas vraiment le fait qu'elle choisisse ça qui est intéressant, le fait qu'il mange pas ou qu'elle choisisse la nutrition. Je pense pas que ça soit du tout une critique du fait de choisir le véganisme ou le végétarisme. Je pense pas du tout. Au contraire, c'est vraiment quelque chose... Enfin, ça me paraîtrait bête qu'elle puisse imaginer, qu'on puisse imaginer qu'elle veut parler de ça. Et au contraire, elle veut vraiment parler du fait que les gens peuvent être influencés, notamment les jeunes, par rapport à n'importe quelle fausse prophétie ou fausse idéologie, quoi. Idéologie un peu bête. Et que, enfin, ça fait beaucoup penser à tout ce qui est les anti-vax, etc. Hein. C'est une sorte de. La meuf, c'est une sorte de Didier Raoult vous a dit que voilà, c'était bon. Et puis, accepter.
Mia Wasikowska,
Didier Raoult.
Et puis, des gens vont se dire, bah oui, c'est vrai. Et du coup, on va suivre ce qu'il nous dit, alors que c'est complètement. Enfin, je trouve que c'est une satire assez édifiante de ce qu'est le rejet de la science de plus en plus grand. Dans la société, quoi, tout simplement. Et donc, j'ai adoré. Quoi.
Ouais, alors, j'y reviens deux secondes, mettre les points sur les i, parce que c'est juste infâme, ce truc. Enfin, c'est vraiment un des films les plus crétins que j'ai vu ces derniers temps. Et tout ça, pour une simple et bonne raison, c'est que pour moi, justement, ça peut pas être un hasard qu'elle choisisse ce sujet-là. Et elle a beau mettre un putain de disclaimer au début pour dire que, attention, il y a des images de gens boulimiques et des trucs comme ça sur des pratiques, attention si ça peut vous choquer, ce genre de choses-là. Mais pour moi, le vrai problème du film, c'est que c'est d'une bêtise profonde à tout mélanger. C'est-à-dire que ça te parle de véganisme, ça te parle de boulimie, ça te parle de problèmes d'alimentation et de questions d'alimentation qui tiraillent notamment la jeunesse aujourd'hui, à l'heure de l'éco-anxiété, de la question du consumérisme qui nous incite à consommer différemment la nourriture. Et pour autant, avec cette idée que comme c'est des bourgeois qui n'ont pas a priori eux de problème pour se nourrir, ça pose une question très simple, c'est qu'à l'heure actuelle, tout ce qui est véganisme, ces mouvements-là, concernent avant tout un milieu quand même plutôt privilégié qui a les moyens de pouvoir justement ne manger que des légumes bio ou ce genre de choses-là. Il y a une réflexion qui est esquissée dans les premières minutes du film et qui est totalement lâchée en cours de route, qui était pour le coup intéressante. Et tout ça se retrouve dans cette espèce de fatras pas construit, pas joué, pas mis en scène, qui justement t'amène au bout de 5 minutes à ce que tu sais que ça va vers une secte, et tout ça pour te dire, regardez, finalement, ils sont tous un petit peu crétins. Et tu te dis, je trouve ça limite un peu dangereux aujourd'hui de faire un film, tu vois, de traiter la jeunesse avec les inquiétudes que l'on peut avoir et de, en fait, de tout mettre sous le vernis d'une caricature pseudo-vitriol qui, en plus, est même pas drôle, qui est jamais choquante, parce que tu te trouves avec une énième scène de vomi à Cannes. C'est juste le truc, je ne veux plus voir de vomi à Cannes par pitié. Quoi.
À l'écran ou dans la vie
les deux, mais particulièrement sur un écran du Festival de Cannes, et c'est insupportable à suivre. En fait, tu te dis, mais vraiment, elle mélange tout pour, en se croyant beaucoup plus maligne que son sujet ne l'est, avec des acteurs qui se croient aussi beaucoup plus subtils dans leur jeu qu'ils ne le sont réellement, et avec une mise en scène qui se croit beaucoup plus subtile qu'elle ne l'est réellement. Et je, pour moi, vraiment, comme au bout de 5 minutes, je savais où le film allait, j'en avais déjà marre et j'en pouvais plus, et je me suis juste dit, pitié, arrêtez ça.
Ouais, alors du coup, moi, un peu entre les deux. Alors déjà, si jamais il y a des véganes qui nous écoutent, je vous rassure, étant végane, j'ai à aucun moment eu l'impression que le film me disait que le véganisme était une secte. Hein, c'est vraiment pas de ça dont il s'agit.
Merci, Judith.
Je ne pense pas. Mais et je ne mange pas bio par ailleurs, enfin, peu importe. Mais oui, en fait, je pense que le film est effectivement assez programmatique. On voit, je suis d'accord avec le fait qu'on voit assez vite où il va. On se demande s'il va vraiment y aller, puis il se trouve qu'il y va. Bon, voilà, c'est un peu attendu. Et je trouve que aussi, c'est finalement, il se termine un peu là où il aurait dû commencer, parce qu'il se termine sur la naissance de quelque chose où on se dit un peu, bon, bah là, ça prenait enfin un peu d'ampleur, et du coup, une ampleur qu'on n'a pas eue dans le récit du film, ce qui est un peu dommage. Mais après, j'ai trouvé ça loin d'être honteux, dans le sens où je trouve que les acteurs sont corrects, que la mise en scène n'est pas inintéressante, que l'atmosphère est bien gérée. J'ai bien aimé la musique, les espèces de petites percussions un peu agaçantes là, qui sont vraiment comme la faim peut venir te tirailler l'estomac. Enfin, qu'il y avait une, c'était, ouais, j'ai trouvé ça plutôt bien joué. Après, voilà, je l'ai pas trouvé super marquant, je l'ai juste pas trouvé désagréable. Et moi, je suis pas contre tous ces films qui sont un peu à la mode en ce moment. Je dis ça parce que je suis en train d'écrire sur Sick of Myself, mais qui sont pas, comment dire, qui nous montre un peu le cynisme, avec cynisme en tout cas, certains mots du siècle sur bah en fait la vacuité de notre existence et les chemins à la con qu'on essaie de se trouver pour se sentir vivant, quoi.
Pour moi, c'est vraiment le film pour choquer la bourgeoise à Cannes, et c'est tellement je trouve ça
je suis d'une bourgeoise à Cannes facile.
Bah oui, non mais exactement, Alexandre. Mais je trouve ça tellement facile et tellement bête.
En fait, je trouve ça intéressant que tu représente les jeunes par rapport à ce choix comme des crétins, alors que pour moi, ce sont des personnes qui ont été influencées et qui sont vulnérables. Donc, pour toi, ce sont des crétins. Pour moi, ce sont
non,
juste des
le
personnes
film est crétin.
Vulnérables.
Je dis pas que les jeunes sont crétins, je dis que le film est crétin.
Ma foi, tout va bien alors. Mais non, mais pour moi, vraiment, pour moi, c'est pas du tout des imbéciles. Et justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que si c'était des. Si elle nous racontait que ces jeunes sont juste des idiots qui suivent quelque chose de bête, ce serait vraiment assez malvenu. Mais pour moi, justement, elle filme pas ça. Elle filme, certes, des jeunes bourgeois, etc., qui ont a priori tout pour être satisfaits de leur vie de jeune, leur jeunesse, quoi, et qui sont finalement influencés par quelqu'un qui vient d'un autre milieu aussi. Et c'est vachement intéressant de filmer, bon, c'est peut-être un peu caricatural de filmer des personnages qui ont tous 5 ou 6 adolescents qui ont tous des problèmes différents, mais qui viennent tous d'un même milieu, sauf un qui est pas vraiment d'un milieu bourge, hein, puisqu'il est boursier, etc. Donc, ce qui prouve bien qu'elle ne filme pas que des jeunes bourges qui ont tout dans la vie, et qu'elle cherche juste des personnes qui se cherchent et trouvent quelque chose qui peut potentiellement les intéresser, ou en tout cas leur permettre de se relever vis-à-vis de cette secte qu'elle propose, le personnage Via Masikowska. Après, bon, chacun se fera son avis, mais...
Ouais.
Non, mais chacun se fera son avis. On n'a pas encore de date de sortie en France, mais bon, il sortira en France.
Il faut quand même le dire, parce qu'on a plutôt été d'accord sur la majorité des films du festival, et c'est vraiment peut-être le film sur lequel on est vraiment méga divisé dans la rédaction.
Et vous savez tous que j'ai quand même les meilleurs avis ici, donc globalement ça devrait aller.
Oui, bien sûr.
Enfin, en tout cas, ça a fait un petit peu scandale. Tu disais que ça voulait choquer la bourgeoise. Bon, est-ce qu'il y a eu vraiment par ailleurs des scandales cette année à Cannes? Bon, il y a eu Jeanne Dubarry en début de festival, évidemment, avec la présence de Johnny Depp.
Pour dire à quel point c'était de la merde.
Bon,
en plus,
on va pas revenir dessus. On a eu des articles, etc., qui sont sur le site. On a eu le passage Thierry Frémaux sur sa trottinette, sur
son
un
vélo,
trottoir,
ou
sur son vélo. sur un trottoir, interpellé par un flic qui passait par là et qui lui a dit de descendre. Et puis bon, c'est fini en petite.
Attention, parce que tu vas plus jamais avoir d'accred là, je crois.
Non, ouais, mais moi, je décris juste le fait. Je n'ai pas dit que c'était bien ou pas de rouler sur.
Suffisant déjà.
Même si je pense que le vélo est fait pour les routes et non les trottoirs.
Et moi, et je décris enfin, le fait qu'il a dit beaucoup d'énormités en conférence de presse, mais bon, c'est pareil. Pourvu que je sois accrédité l'année prochaine.
Voilà, j'irai seul à Cannes l'année prochaine. Et puis c'est tout.
Voilà. Non, je pense que celui peut-être qui a fait le plus de polémique, c'est peut-être The Idol. Tout simplement, The Famous série from Sam Levinson.
From HBO.
And The Weeknd. And HBO.
Oui, HBO. Et donc, dont étaient diffusés les deux premiers épisodes en fin de festival. Et bon, c'est vrai que The Idol a surtout fait pas mal parler d'elle avant sa diffusion cannoise, puisque Rolling Stone avait fait un gros papier à charge en disant que la prod avait remanié le truc en cours de route pour faire des réécritures, qu'elle est toujours plus dans un point de vue masculin, voire masculiniste, à grands coups de fantasmes de viol et de choses pas très ragoûtantes, puisque la série parle donc d'une star à la Britney Spears qui est un peu sur le déclin et qui essaie de revenir avec un nouveau tube, et tu sens qu'elle est manipulée effectivement par son équipe, par absolument tous ceux qui l'entourent, et elle rencontre cet impresario, ce gérant de boîte de nuit Tedros, incarné par The Weeknd, qui se met à la réinspirer, mais en la manipulant de la pire des manières, en étant clairement un prédateur autant sexuel que psychologique. Enfin, le mec est voilà, la pire des raclures. Ce qui fascine clairement Sam Levinson et The Weeknd, qui est aussi à l'écriture de la série.
Bah, qui joue Tedros, oui.
Qui joue Tedros, mais qui est aussi à l'écriture et à la base de du scénario de la série. Et c'est tout le problème. Alors, je dis ça en fan devant l'éternel de The Weeknd et de tous ses albums, parce que je trouve que c'est un mec absolument incroyable. Mais je suis bien contraint de reconnaître que le problème majeur de la série, c'est lui. Parce que clairement, la série est assez passionnante quand elle suit le point de vue de cette femme, donc, qui est interprétée par Lily Rose Depp, Jocelyn, et que tu vois sa descente aux enfers, et que tu suis en fait à quel point elle essaie de se maintenir à flot dans une industrie qui essaie tout le temps de lui garder la tête sous l'eau en fait, et il y a notamment une scène de tournage de clip cauchemardesque qui est assez passionnante quand t'es vraiment du point de vue de cette femme qui essaie de s'émanciper dans une société où tu sens qu'elle n'a même plus le contrôle de sa propre image et de son propre corps. Là, il y a un truc qui est assez fort, et tu sens que le problème, c'est la complaisance avec laquelle Sam Levinson caricature ça en filmant lui-même son corps comme un bout de viande où on te franchement fait un jeu à boire sur les plans sur son cul parce que vraiment tu finis avec le fouet dans la machine à laver
à le moment où ce plan où littéralement on a un gros plan sur elle qui se met une claque sur son propre cul,
voilà, c'est ça, au ralenti un petit insert comme ça,
qui ne fait pas ça,
ça dure un peu
mais
plus longtemps.
Le vrai problème, c'est dès que du coup il filme The Weeknd comme cette sorte de Méphistophélès moderne, là tout de suite c'est un peu plus problématique, et tu sens que la série se complaît beaucoup dans le point de vue très masculin, voire dans dans cette prédation de l'homme qui est pourtant visiblement ce que voudrait critiquer la série. Et voilà, moi je trouve que quand en limite ça devient une sorte de biopic indirect de Britney Spears, c'est assez intéressant. Quand ça devient l'ego trip un peu de The Weeknd, qui est totalement dans la continuité de ses albums, donc je peux pas te dire le contraire, tu vois. C'est Heartless, ça commence par Never Need a Beach, à moi de Beach Need, donc c'est ce genre de paroles que en chanson je trouve génial, donc c'est moi qui ai un problème sans doute, mais voilà, dans la série ça pose un peu problème. Après, on attend de voir la suite. Et en tout cas, on en parlera en vidéo et on en a déjà parlé en article. On reviendra là-dessus et on suivra quand même la série de près, parce que je dois avouer avoir une certaine curiosité morbide.
Bah,
pour
tu
ce
m'étonnes.
Truc.
Tu m'étonnes. On n'aime pas Club Zero, mais par contre, voir des voir des fantasmes bizarres, ça on y est. Non, mais enfin, moi, je suis d'accord avec toi. Le Star System, c'est plutôt une. Enfin, c'est plutôt très intéressant de la manière dont c'est raconté, la manière dont il filme les. Enfin, la détresse un peu de son héroïne qui est jouée donc par Lily Rose Depp. Et après, à côté, il y a toutes ces scènes bizarres de fantasmes déviants là, avec une sorte de porno chic soft en même temps, avec The Weeknd là, qui fera tout. Enfin, il y a ce plan quand même où il arrive en mode comte Dracula. Hein, donc,
les portes s'ouvrent
dans
le contre-jour et tout.
Et il arrive comme une immense ombre silhouette. Qui est prête à tout manger, hein, notamment le sang de sa proie, hein, on va pas se mentir. Et je trouve ça complètement con et naze quand ça parle de, enfin quand c'est sur le sexe, quoi, globalement.
Ah oui,
quand
c'est vraiment très Fifty Shades of Grey. Alors que ça voudrait être Basic Instinct, hein, que oui, ça montre littéralement à l'écran, mais ça n'y arrive pas trop.
Oui, c'est vrai. À un moment donné, regarde, fou, là, enfin la subtilité de cette série, quoi, globalement. Et pourtant, j'adore Euphoria, mais alors qu'est-ce que c'est bête. Et enfin, il y a vraiment, enfin moi, je trouve que la série est vraiment problématique à plein de niveaux. Tu sens déjà que eux-mêmes sont en fait parlent plus ou moins de leur conception de leur série.
C'est très subtil. Hein,
ah mais c'est fou, là là, c'est d'une lourdeur sur les symboliques, mais oh là là, j'ai rarement vu un truc aussi naze. Enfin bref, je pense que c'est le truc qui a fait un peu plus scandale.
Je sais pas si je regarderai. Hein.
Voilà, mais enfin, heureusement, il n'y a pas eu que des scandales. Il y a eu donc les films qu'on a bien aimés dans la compète, là, un beau palmarès et aussi des coups de cœur ailleurs.
Yes, alors moi justement, j'ai assez envie d'attirer votre attention sur un film de la quinzaine des cinéastes, donc qui s'appelle désormais non plus la quinzaine des réalisateurs, mais la quinzaine des cinéastes. Un film qui s'appelle In Flames, donc qui a été réalisé par Zarar Khan, qui est un réalisateur pakistanais qui vit au Canada, je crois, si j'ai bien suivi, mais qui est de nationalité pakistanaise. Et donc c'est un film d'horreur féministe, donc évidemment, bah, j'étais cliente, mais au-delà de ça, non, il est vraiment bien. Moi, il me fait assez penser à en fait Men d'Alex Garland. Enfin, sauf que ça ne ressemble pas du tout à Men, mais le propos est un petit peu le même, simplement. Si vous avez trouvé, comme beaucoup de gens, ce qui n'est pas mon cas, mais que Men, c'était trop gros sabots, que c'était vraiment pas assez subtil, que ça en faisait trop, ça en faisait des caisses, etc. Et ben, In Flames, c'est un peu le même propos, mais par contre, donc ça se passe au Pakistan, mais avec en fait le fantastique qui va venir s'immiscer dans le récit, vraiment par petites touches, pour finir par avoir un final plus franchement horrifique, mais on va dire qu'on va avoir une ambiance beaucoup plus réaliste et un quotidien des femmes qui est dépeint de manière beaucoup plus naturaliste. Et voilà, petit à petit, le propos va être amené, mais de manière du coup plus subtile et plus, voilà, plus naturelle, on va dire, que dans Men. Encore une fois, j'adore Men, hein, mais bon. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle...
C'est très bien, Men.
Ouais, moi j'adore, mais c'est vrai que beaucoup de gens lui ont reproché, bon, c'est gros sabots, quoi, on va dire.
Je comprends.
Et donc, c'est l'histoire d'une jeune femme, Mariam, interprétée par Ramesha Nawal, qui en fait est d'une famille où le grand-père, qui était le patriarche de la famille, vient de mourir. Donc, elle a déjà plus son père, donc sa mère est veuve depuis longtemps. Et donc, bah, une fois que le patriarche disparaît, en fait, tous les hommes qui gravitent autour d'elle dans la famille vont essayer de grignoter du terrain sur elle. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien pour les protéger. Donc, à partir de là, elles subissent toutes sortes d'attentes. Les autres hommes de la famille essaient de récupérer leur appart en s'en fichant complètement qu'elles aient plus d'endroit où vivre. Elles se font agresser dans la rue. Voilà. Et au départ, la mère et la fille sont pas forcément solidaires, et petit à petit elles vont apprendre à le devenir parce qu'elles sont forcées de le devenir. Et donc voilà, ça pourrait être un film d'ailleurs pas du tout horrifique, hein, mais le réalisateur choisit le prisme horrifique qui va venir petit à petit métaphoriser tout ça. Et j'ai trouvé ça très bien, c'est pas un énorme coup de cœur, mais j'ai trouvé ça quand même assez balèze. Et ce qui était très intéressant aussi, c'est qu'après il y a eu un Q&A avec le réalisateur et les actrices après la séance, et c'était assez émouvant d'entendre Zarar Khan dire qu'en fait... gamin au Pakistan, il se rendait pas du tout compte de cette situation, mais qu'en grandissant, il a récupéré petit à petit des témoignages de femmes qui vivaient au Pakistan et qui s'est rendu compte en fait de ce que c'était vraiment que la situation des femmes dans son pays. Il s'en est beaucoup voulu d'avoir été aveugle à ça quand il était plus jeune, et que du coup maintenant il voulait absolument en parler dans son film et avoir un propos très entier et assez radical sur le sujet. J'ai trouvé ça assez fort. Donc voilà. Ça, c'était un coup de cœur. Et je vais aussi parler rapidement de Only the River Flows, qui est un thriller chinois réalisé par Shu Jun Wei et qui était projeté dans la sélection Un Certain Regard. Donc, qui est l'histoire d'un flic qui enquête sur une petite série de meurtres qui a lieu dans un village donc en Chine. Et en fait, au fur et à mesure qu'il va enquêter, il va un peu se perdre dans les méandres de l'esprit humain et un peu, il y a une sorte d'atmosphère de désespoir qui va se développé autour de cette enquête dans un paysage qui est très brumeux, très gris, dans cette espèce de campagne chinoise. Et c'est pas un film qui est vraiment fantastique, mais qui va flirter tout le temps avec une atmosphère fantastique. Et je l'ai trouvé assez hypnotisant, assez beau, voilà, avec une mise en scène et un montage très originaux et habiles. Voilà.
Et toi, du coup, Antoine, un ou deux coups de cœur
Bah moi, comme très souvent, mes coups de cœur sont souvent quinzaine des cinéastes aussi. Hein, et là, pour le coup, moi, j'ai eu deux films américains qui m'ont vraiment pas mal retourné. Le premier, c'est The Sweet East, qui est réalisé par Sean Price Williams, qui m'intriguait parce que du coup, ce mec-là était chef-op de Good Time, des frères Safdie. Donc, tu te dis, a priori, c'est costaud. C'est tourné dans un très, très beau 16 mm. Et en fait, surtout, alors, le film est... super zarbe, j'y suis allé vraiment sans savoir du tout de quoi ça parlait, et en fait tu suis ce personnage donc de cette jeune femme qui s'appelle Julianne, qui est génialement interprétée par Talia Ryder et qui est vraiment qui hypnotise pendant tout le film, et vraiment le film repose sur ses épaules, qui durant un voyage de lycée, de fac, tu sais pas trop, vers Washington, se retrouve prise dans une fusillade dans un bar, s'échappe avec des punks. Et à partir de là, le film part complètement en sucette, où tout repose sur des rencontres progressives que ce personnage-là a avec des gens dans une déambulation dans l'Est américain. Donc ça peut être autant à travers un néo-nazi suprémaciste intellectuel qu'avec une équipe de tournage, qu'avec des islamistes planqués dans la forêt qui l'enferment comme une princesse dans un château. Donc voilà, le film a vraiment cette dimension très Lewis Carroll qui est assumée. Moi, j'y pensais en voyant le film et c'est l'une des références assumées par le cinéaste qui, en plus, est vraiment... encore plus beau avec cette teinte pastel du 16 mm. Et en fait, le film a ce truc bizarre de parler beaucoup de complotisme et finalement de te parler de... C'est un peu l'anti-road movie, en fait. C'est un film qui fonctionne par à-coups, par différentes phases que ce personnage traverse. Donc, t'es dans l'opposé de la linéarité que tu supposerais dans un road movie. Et en fait, ça amène ce film-là à constamment se renouveler pour parler en fait du côté ultra foutraque de la culture américaine, ou du moins de ce pays qui se cherche une culture. Et je trouve que ça amène le film vers quelque chose d'étonnant et qui, derrière ça, parle de l'émancipation de cette femme qui, en fait, retourne sur elle-même les codes habituels du conte de fées, notamment ce que t'attends de la demoiselle en détresse ou de... Voilà, de comment en fait elle s'imprègne de ça pour mieux retourner ça sur soi-même après. Et le film est du coup très surprenant, très beau, très bien réalisé, et c'est surtout très drôle. Et ça, c'est quand tu vas à Cannes et que deux fois, bon, tu tapes quand même des films un peu lourdos, et qui se prennent très très au sérieux, quand t'as un film qui fait vraiment rire, notamment quand elle traîne dans la maison de ce suprémaciste qui a du coup des draps avec des croix gammées dessus, et, ouais. Et que en gros, il se transforme en sugar daddy, tu vois, qui veut se la faire mais cause pas, et tu vois, et elle joue clairement de l'ambiguïté là-dessus. Enfin, le film est vraiment assez génial et c'est un très très beau portrait voilà de femme dans cette Amérique complètement fucked up, ce qui, je pense, est aussi très beau dans le côté très contemporain que ça peut avoir. Et l'autre film qui est finalement dans une mouvance assez similaire s'appelle Riddle of Fire, et c'est un premier film qui est réalisé par un réalisateur qui s'appelle Weston Razzouli, et là c'est aussi en 16 mm aussi, donc cette fois dans le nord de l'Amérique, et tu suis trois gamins dans un truc très Stand By Me dans l'esprit, qui volent une console de jeu, et sauf que le code parental est mis sur la console de jeu, et donc pour ça ils doivent récupérer, enfin ils essaient d'amadouer la mère d'un des gamins qui elle aussi se transforme en véritable princesse de conte de fées puisqu'elle est malade, elle est dans son lit et elle demande qu'on lui rapporte une tarte aux myrtilles, et à partir de là les gamins se retrouvent propulsés dans une aventure là aussi assez improbable de RPG. Et en fait, le film assume totalement d'être une sorte de RPG, de conte médiéval à hauteur d'enfant. Et ce qui est génial, parce que le film pourrait vite, du coup, sembler rébarbatif ou un peu trop bourratif dans son côté « je me réinvente, je crée des péripéties un peu cheloues », parce qu'il se retrouve avec des braconniers dans la forêt. Enfin, il y a des trucs vraiment bizarres qui se passent dans le film. Mais le film n'oublie jamais, non seulement d'être à hauteur d'enfant, ce qui est limite un cliché à dire, mais surtout d'embrasser leur regard, la magie de ce quotidien-là et tout ce que ça peut avoir de fantastique. Ce qui, là aussi, est franchement épaulé par le 16 mm et surtout par l'alchimie des gamins acteurs. Donc, ils sont trois et il y a une quatrième gamine qui les rejoint dans une sorte de délire un peu elfique assez génial, et l'alchimie entre eux à Cannes, beaucoup évoqué même Tarantino dans la qualité des dialogues et comment les gamins à la fois sont dans un confort où ils peuvent totalement improviser, et ils ont évoqué certaines impros qu'ils ont faites sur le plateau qui sont assez géniales. Et là aussi, le film est souvent assez drôle, très touchant, très tendre, et c'est un très beau film d'enfant mais qui est en même temps un premier film super rafraîchissant et engageant, et j'ai très très hâte de voir ce que ce mec là fera plus tard.
Oui, ça me faisait assez envie, ces films. J'espère que je pourrai les rattraper moi aussi bientôt. Et du coup, toi, Alex, il y en a d'autres encore que tu avais aimé
Moi, j'avoue, j'ai eu beaucoup de coups de cœur en même temps. En voyant autant de films à Cannes, c'est rapide. Enfin, moi, j'ai pas fait beaucoup de la quinzaine, mais j'ai beaucoup aimé Vincent doit mourir à la semaine de la critique. C'est une petite comédie fantastique, un peu étrange, qui flirte avec l'horreur, avec Karim Leclou, qui est littéralement poursuivi par tout le monde, qui veut le tuer, quoi. D'où le titre, Vincent doit mourir. Ensuite, il y a eu L'Émeute, qui était à un certain regard de son côté, c'est un petit polar nocturne, qui a des vibes un peu, à la Cohen, aux frères Cohen, dans une sorte de burlesque, en même temps très tragique potentiellement. Il y a eu le film de Kim Ji-woon qui était super dans la toile. Ah, ouais. On y reviendra peut-être plus tard dans l'année, mais qui c'est Kim Ji-woon qui revient à un truc un peu comique mais avec de la tension, parce que c'est un cinéaste qui essaye de refaire son film au dernier moment parce qu'il est sûr que s'il change cette scène, ça deviendra un chef-d'œuvre, son gros nanar, et du coup Non mais c'est vrai, c'est exactement c'est le pitch, quoi. Son film est nul et en fait d'un coup il a un éclair de génie, il se dit mais si je fais cette scène de cette manière, bah ça va, si je le fais pas je le regretterai toute ma vie parce que je suis sûr que je tiens un chef d'œuvre en fait. Mais il a pas vraiment les autorisations pour le faire et du coup ça parle du génie de l'artiste, de la folie de l'artiste mais aussi de cet engagement assez intime et touchant de comment il jusqu'où il pourrait aller pour donner vie à sa création. Mais évidemment que je dirais que mon gros coup de cœur c'est Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Évidemment, dont j'ai fait l'énorme groupie pendant ce festival puisque j'ai tout fait pour avoir une bonne place pendant la séance quoi, et dont j'ai attendu longtemps pour pouvoir assister à la conférence de presse parce que voilà, je suis
et tu as vu Léo. Du coup.
J'ai vu Léo, j'ai vu Robert aussi. J'ai vu Lily Gladstone aussi, il ne faut pas l'oublier quand même. Elle est excellente dans le film. Mais Martin Scorsese, pour revenir sur Killers of the Flower Moon, c'est l'adaptation du livre éponyme de David Gran qui raconte le massacre de la communauté Osage dans les années 20 aux États-Unis et qui en était responsable. Finalement, qu'est-ce que raconte ce massacre des Osages à cette période sur le capitalisme, sur la mainmise de la communauté blanche pour détruire à peu près tout ce qui n'est pas de la communauté blanche, donc ici les Osages en question, et de voir à quel point la cupidité humaine peut ramener des situations, ou pas des situations, mais des relations terriblement cruelles vis-à-vis des autres, etc. Et j'ai trouvé ça magnifique. C'est 3h26 quand même le film, donc c'est long, c'est... Et c'est un film qui se regarde, enfin qui infuse un peu comme un lampoison, j'ai envie de dire, parce que le poison a un rôle à jouer dans cette histoire, et notamment par rapport à certains personnages dont on suit littéralement la chute lente de leur corps, quoi, qui se désagrège au fur et à mesure du film, sans qu'ils comprennent réellement pour quelle raison. Et le film joue un peu de ça, de nous aussi, nous empoisonner et qu'on se laisse qu'on subisse finalement un peu la narration de que choisit Scorsese, qui est très lente, qui est très contemplative et qui en même temps raconte tellement de choses sur
l'Amérique en général. Oui, voilà, pour l'avoir vu avec toi, et je partage totalement ton ressenti, je trouve que c'est un film immense. Moi j'y vois surtout peut-être un condensé de tout ce que Scorsese a toujours aimé, mais là vraiment via le film historique, comme il a pu le faire avec Gangs of New York par le passé, mais là il y a quelque chose d'encore plus grand, je trouve, avec tous ces personnages, à parler vraiment d'une communauté américaine comme sorte de métonymie de l'Amérique, et du coup de la chute inévitable que représente le système capitaliste. Et j'ai vraiment l'impression que c'est son... Enfin, il a déjà Loup de Wall Street et plein d'autres films comme ça, oui. mais je trouve que ce film-là, sans parler directement du capitalisme, est finalement peut-être un de ses plus grands films sur le capitalisme, et du coup... sur l'évidence que ça a d'être un rise and fall comme Scorsese nous y a habitué. Et du coup effectivement tu parles de l'empoison, et c'est ça qui est fascinant en fait, c'est que tu es fasciné à l'idée de te dire ça ne peut que mal finir, et comment ça va mal finir, et il t'embarque avec ces personnages là qui sont du coup aussi tendres que tragiques, et il y a quelque chose de... Et en plus de ça, bon, du coup ces paysages sont absolument somptueux, il se réaccapare des codes du western, tu sens qu'il y a, il y a quelque chose du geste de cinéma un peu terminal chez lui à travers ce film-là, qui est passionnant à voir.
Il y a un peu quelque chose de la fresque d'antan, quoi, qu'on fait plus du tout, et qui a pas peur de prendre son temps pour raconter tout ce qu'elle a raconté, tout simplement, et qui a pas besoin d'aller vite, parce que justement en fait elle a la possibilité de garder une ampleur qui ne se fait plus au cinéma. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que raconte aussi le film. Globalement, la première scène du film, c'est le grand chef des Osages qui enterre le calumet pour signer à la paix avec la communauté blanche. Et en fait c'est un peu j'ai un peu la sensation que c'est ces grands cinéastes ou en tout cas cette forme de cinéma qui au fur et à mesure a accepté d'enterrer ce qu'elle était réellement, et s'est laissé absorber par ce qui arrivait derrière, c'est-à-dire toutes les mainmises financières, etc. Et qui a finalement pris le dessus sur elle, a offert un cinéma qui ne cherche plus à être vraiment du cinéma, mais à être plutôt un produit qui va être rentable et qui va pouvoir en amener à d'autres. Et je trouve ça assez... c'est dur de poser des mots encore, même après une semaine, une grosse semaine, voire presque deux semaines après l'avoir vu. C'est dur d'en parler, parce que c'est un film si riche que c'est, je pense, impossible d'en capter ne serait-ce que la substantifique moelle ou une grande partie de tout ce qu'il a à dire en un seul visionnage.
Bah, et puis c'est encore plus compliqué quand tu enchaînes d'autres films en plus, dans la foulée. La folie, le côté grisant de Cannes à enchaîner les films et en te disant à chaque fois je sais pas trop ce que je vais voir. Enfin, je sais pas trop. Comme t'as pas de son de cloche, tu te dis est-ce que je vais voir un grand film ou pas. Et des fois t'as de belles surprises et il y a des films qui nécessitent d'être décantés. Je suis comme toi. Moi, le Killers, c'est un film. J'ai qu'une hâte, c'est de le revoir aussi.
C'est ça. C'est un film qui est assez bouleversant vis-à-vis de ses personnages, notamment le personnage de Lily Gladstone, qui est vraiment, pour moi, le cœur, on va dire, l'âme du film, dans le sens, l'âme la plus pure du film. Et qu'il est aussi relégué, toute cette histoire d'enquête criminelle, à justement, au contraire, quelque chose où on s'absorbe de la communauté Osage et on voit une communauté se désagréger et mourir, littéralement. C'est assez magnifique.
Bon, en tout cas, voilà. Ça prouve que ce Festival de Cannes était quand même plutôt de bonne qualité.
Ah oui.
Et on a quand même vu des trucs super cool. Du coup, pour un peu faire la conclusion de tout ça, on a quand même déjà prévu pas mal de trucs. L'autre gros film dont on n'a pas parlé, c'est Indiana Jones 5.
Exactement.
Mais on a déjà écrit dessus et on a fait une vidéo dessus. Donc ça, au moins, c'est fait. Et le film est plutôt pas mal, d'ailleurs. The Idol... On va s'en occuper aussi, on va faire une vidéo parce qu'il faut bien en parler et j'avais très envie de le faire de toute façon. Mais qu'est-ce qu'on peut encore faire autour de Cannes? Parce qu'on a fait, un article sur justement nos 10 pépites hors de la compétition. Mais
on a fait pas mal d'articles, on a fait Asteroid City, on a fait Kubi aussi, le film de samouraï de Takeshi Kitano, on a fait L'Enlèvement on a fait Black Flies aussi avec Sean Penn, on a fait quoi d'autre? On a fait Acide aussi, un bon petit film de genre français avec Guillaume Canet et
Ouais. Et Le règne animal aussi, ouverture d'un certain regard de Thomas Caillet avec Romain Duris qui était vachement cool.
Oui, c'est ça.
Voilà, mais qu'est-ce qu'on peut encore faire peut-être
faire Killers, peut-être Killers de Flower Moon, un peu plus de choses parce que voilà, c'est pas comme si c'était pas le film de l'année, donc voilà, et pourtant on est qu'en mai. Et puis sinon, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre sinon un podcast
Ah ouais, un podcast, c'est pas mal.
Bah ouais, c'est pas mal un podcast.
Par contre, du coup, si on fait un podcast, comme d'habitude, ça veut dire qu'il faut qu'on rappelle aux gens de bien s'abonner, de mettre des étoiles, 5 étoiles si possible, de laisser des commentaires et de partager, parce que c'est comme ça que ça vit un podcast, donc ce serait pas mal.
Ouais, c'est clair. Mais est-ce que les gens vont vraiment faire ça?
Oui. Et c'est maintenant.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.